l'atelier des médias, Julien Lebotte.
Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, dans un musée, le meilleur ami du flâneur, c'est son cher et tendre smartphone? Oui, passez à côté de la Joconde au Louvre et c'est une nuée de téléphones qui s'interpose entre les spectateurs et le sourire égal de la Joconde elle-même. Promenez-vous dans les jardins de Versailles, arpentez les ruelles d'Avignon en plein mois de juillet ou regardez sur la Croisette en plein festival de Cannes, tous ces zozos sont en train de s'envoyer des selfies. Mais que sont les institutions culturelles d'antan devenues? Je badine et je provoque, oui, parce qu'il est de bon ton finalement de dire que le smartphone, c'est le mal, c'est la surcharge informationnelle et c'est presque le tout à l'ego, comme le disait Régis Debré. Le selfie, le filtre Instagram ou la story sur Snapchat, ce n'est pas nécessairement la fin des haricots pour le démon de l'inspiration, ce n'est pas nécessairement la fin des humanités et de la culture au long cours, et ce n'est pas nécessairement la fin de l'effroi devant le silence des espaces infinis. Et c'est peut-être même l'un des outils d'émancipation du genre humain tant il peut aussi permettre d'améliorer l'accès à l'information, de décloisonner des territoires confinés, voire nous permettre d'avoir une nouvelle fenêtre sur le génie humain et la création contemporaine ou, dans un tout autre registre, sur les atrocités commises du côté d'Alep sous le regard des citoyens reporters armés de leur téléphone et de leur compte Twitter. Bref, il y aura un peu de tout ça aujourd'hui dans l'atelier des médias. Je vous convie donc à une conversation sur la transformation des musées ou plus largement des institutions culturelles à l'heure du numérique. Et vous verrez, j'ai invité 5 chercheuses formidables qui défendent une certaine idée de la culture à l'heure du code informatique et des réseaux sociaux. On les retrouve dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre coup de fil de la semaine et on part à Beyrouth pour parler de la Syrie.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Omar.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, correspondant de Radio France à Beyrouth et vous faites partie de ceux qui nous informent sur le cours des événements en Syrie en général et à Alep en particulier. Vous qui êtes déjà allé à Alep, qui est pour mémoire situé à un peu moins de 400 km de Beyrouth, dites-nous comment vous faites pour vous tenir informé du cours des événements.
Alors, ce qui est indispensable aujourd'hui, ce sont ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype. Il faut savoir que dans leur malheur, eh bien, les Alepins disposent d'un certain nombre d'outils, donc de ces outils dont je viens de parler, de téléphone, mais surtout de valises satellites, de connexion Internet, ce qui leur permet, eh bien, de communiquer avec le monde extérieur et de nous faire vivre, eh bien, cette horreur vécue au quotidien depuis bientôt 4 ans, tous ces bombardements à répétition, ces sièges, et c'est la manière avec laquelle je travaille avec des jeunes sur place qui sont des activistes, qui sont parfois des journalistes citoyens, qui sont parfois des témoins lambda. Et que je contacte via WhatsApp, via Twitter, via Facebook, et j'ai de l'information première main, des sources qui se recoupent, mais qui sont extrêmement fiables.
Et aujourd'hui, si vous arrivez à avoir cette qualité d'information, c'est aussi parce que vous avez pu vous rendre dans la partie est d'Alep, bien que maintenant, bien sûr, ce soit impossible pour vous d'y accéder.
Alors oui, moi j'y suis allé pour la dernière fois de ma vie en 2013, printemps 2013, et il se trouve qu'effectivement certains jeunes que j'avais croisés à l'époque sont toujours à Alep, en tout cas dans cette région, et ce sont eux qui m'ont informé sur la connaissance. Sur la base de cette connaissance-là, qu'il y a pu y avoir des affinités. Mais aujourd'hui, vous avez un panel très large de personnes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert via Twitter notamment, et qui sont également dans cette région. Donc c'est effectivement sur la base de travail de terrain, et c'est également sur la base de connexion des amis d'un ami, etc. Et on arrive à avoir comme ça un registre de répertoire de gens qui sont sur place et qui sont extrêmement fiable et qui nous donne des informations bien avant l'AFP, bien avant les agences de presse, et c'est inestimable.
Oui, au fond, si on est encore informé sur ce qu'il se passe sur place à Alep, c'est parce qu'il existe ces citoyens reporters dont on parle ici régulièrement dans l'atelier des médias, et ça fait presque écho à l'expérience dont on avait parlé avec la bande dessinée Aïssam du journaliste Nicolas Hénin, qui se faisait l'écho de ce qui s'était passé à Dera au début du conflit. À Alep aussi, il faut bien rappeler que sans ces citoyens journalistes, sans ces citoyens reporters, on n'aurait aucune info.
Yeah. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous avions des trous noirs dans ce monde. La Corée du Nord est un des trous noirs de la formation. Et la Syrie aurait pu devenir un trou noir. Et grâce à ces jeunes qui sont également présents dans d'autres régions de la Syrie où nous avons des informations sur les exactions, sur les bombardements, sur les crimes commis notamment par le régime de Bachar el-Assad, mais aussi par un certain nombre de groupes armés. On pense à Daesh, évidemment. Donc ce sont des jeunes qui font un travail colossal et qui ont fait ce travail colossal pensant naïvement que la communauté internationale allait prendre en compte ces crimes et allait peut-être les faire cesser. Et malheureusement pour ces Syriens, eh bien, malgré tous ces documents, malgré tous ces témoignages, malgré tout ce travail journalistique, eh bien, nous sommes aujourd'hui à plus de 300 000 morts, 11 millions de déplacés et plus de 5 millions de réfugiés. C'est un drame qui, je pense, rendra honteuse la communauté internationale pour très longtemps.
Omar Waman, je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste pour Radio France et qu'il est très facile de vous suivre sur Twitter @omar_waman. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre appel.
Au revoir.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? Et je vous propose de commencer cette séquence en piochant dans l'une des prédictions 2017 du Niman Lab aux États-Unis. Dans un article intitulé « Le selfie journalism s'impose progressivement », la journaliste américaine Taylor Lawrence revient sur la possibilité d'incarner autrement le journalisme sur le terrain. À l'heure des réseaux sociaux, il est très facile aujourd'hui d'écrire sur à peu près n'importe quelle histoire. On peut même se contenter de glaner depuis son bureau des images et des vidéos sur Twitter, sur Facebook ou encore sur Instagram. On appelle ça la curation et cette pratique s'est finalement généralisée au détriment d'une chose toute simple, le terrain. Et parce que le mieux c'est encore d'y aller plein pot, il faut aller sur le terrain en s'appropriant pleinement la grammaire d'écriture des réseaux sociaux. Exemple, Facebook Live vous permet très vite de prendre l'antenne pour dire ce que vous faites sur le terrain quand Snapchat, via sa fonctionnalité Story, vous permet de raconter les différentes étapes de votre reportage. Et c'est finalement là l'aspect le plus intéressant de cette prédiction sur l'avenir du selfie journalisme. Il ne faut pas avoir peur d'incarner l'information, d'incarner un regard sans forcément d'ailleurs employer systématiquement le « je » pour fabriquer en bon professionnel des histoires qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Je ne sais pas si cette prédiction trouvera grâce aux yeux des rédactions, mais je suis moi aussi convaincu qu'incarner le journalisme sur et avec les réseaux sociaux permet d'entretenir une conversation au service d'une information plus proche et plus accessible. Le Washington Post porte beau. Rappelez-vous, il y a 3 ans, Jeff Bezos, le fondateur du géant Amazon, rachetait le Washington Post, vénérable institution aux États-Unis, à l'histoire incroyable mais malheureusement peu agile en matière numérique. Eh bien, ce mardi, nous avons appris que le journal, devenu un vrai média numérique, est aujourd'hui une affaire qui roule. Autrement dit, le Washington Post est désormais, selon Fred Ryan, l'un des responsables du journal, un média rentable et dont les affaires se développent. Saperlipopette, en voici une bonne nouvelle pour nous tous. On n'est donc pas condamné à bâtonner de la dépêche pour tenter de faire vivre une rédaction au rabais. Il est possible et même opportun de profondément revoir sa copie. D'ailleurs, dans la note publiée par ce même Fred Ryan, il y a même une seconde info. Les marges commerciales étant à présent rétablies au Washington Post, le média américain peut donc se permettre de réinvestir sur des innovations numériques. En somme, une excellente nouvelle pour 2017, nous suivrons ça de près et j'en profite pour vous inviter à réécouter la semaine prochaine notre conversation avec les équipes du Monde.fr et celle du Temps.ch pour nous parler de la transformation radicale auxquelles sont confrontés ces deux grands titres francophones. Traduire des émojis, c'est possible et c'est même souhaitable. J'ai mesuré récemment combien les contextes culturels pouvaient peser eux aussi dans l'interprétation des émojis. Pour mémoire, les émojis, ce sont ces icônes que l'on partage allègrement sur les réseaux sociaux. Des sourires, des cœurs, des objets ou encore des drapeaux de pays, il en existe près de 1700 pour échanger par texto ou sur les réseaux sociaux. Or, qui dit mondialisation des échanges et intégration progressive de ces symboles dans nos conversations, dit vigilance, vigilance sur le sens de nos symboles. 3 exemples. L'émoji avec la main qui s'agite signifie chez nous « au revoir » et bien en Chine, elle signifie tout simplement « tu n'es plus mon ami désormais ».
Autre exemple d'interprétation culturelle différente, plus léger, puisque l'émoji crotte veut dire bonne chance en japonais avant un examen ou un entretien d'embauche. Alors que confidence pour confidence, je n'ai évidemment jamais envoyé cet émoji à des amis. Enfin, l'émoji représentant une aubergine étant utilisé comme un symbole phallique en Occident, il est tout simplement introuvable sur Instagram qui entend bien encourager les bonnes mœurs de sa communauté de photographes amateurs. Je n'en dis pas plus, vous retrouverez toutes ces informations ainsi que des liens vers des études très intéressantes sur le recours aux émoticônes sur l'article que l'on s'empresse de partager sur Twitter. Oui, parce que vous connaissez notre méthode à l'atelier des médias, on tweet presque tout ce qu'on brève au micro, donc tous les liens sont à retrouver maintenant sur le compte Twitter de l'atelier @atelier_media. Dès qu'il est question de culture, d'œuvres d'art, de création ou de patrimoine, la tentation du romantisme n'est pas loin. L'art, chers auditeurs, c'est l'autre nom d'une forme d'énigme, de mystique et d'indicible. C'est un combat contre le chaos et le vide, c'est l'élévation vers la lumière et peut-être la promesse d'une révélation du sens de l'histoire. Et c'est enfin la sublimation du désordre ordinaire de ce monde humain trop humain. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, disait pompeusement Malraux, que l'on cite allègrement quand on veut faire de la culture une forteresse que les ravages du temps n'atteignent pas. Sauf que toutes ces belles phrases sont, en un certain sens, bien loin des usages et des enjeux actuels. Oui, à l'époque des Wikipédia, des Creative Commons, de la 3D et de la numérisation des ouvrages, d'Instagram et de Snapchat, on aurait presque envie de trahir les propos d'André Malraux pour mieux les traduire dans notre langue contemporaine. La culture ne s'hérite pas plus qu'elle ne se conquiert, elle se partage. Voilà le cap, ou plutôt l'horizon de la conversation à laquelle je vous convie aujourd'hui. J'aimerais réfléchir à la transformation des musées ou plus largement des institutions culturelles à l'heure du numérique, du code informatique et des réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous propose d'accueillir Noémie Couillard. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'atelier. Alors, j'aime bien raconter comment j'ai tenté de constituer cette petite table ronde. En faisant mes recherches pour préparer cette émission, j'ai contacté Sébastien Magro, qui est adjoint, si je ne me trompe pas, au responsable du développement numérique au musée du Quai Branly à Paris. On a un peu échangé sur les invités possibles et je me suis très vite aperçu d'une chose. Comment parler de ces questions sans avoir autour de moi un panel de cinquantenaires de sexe masculin, conservateurs de musées et conservateurs dans leurs usages numériques? Vous confirmez, Noémie?
Oui. En même temps, sur la question numérique, on trouve des jeunes quand même, des gens relativement jeunes quand même. Les sexagénaires, on les trouve moins sur les questions du numérique. On en trouve quelques-uns, mais moins.
Alors vous, voici comment je vais vous présenter. Vous allez me dire si je me trompe. Vous avez donc rédigé une thèse s'intitulant « Se revendiquer des publics, politique culturelle numérique et stratégie professionnelle des community managers dans les musées français ». Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est tout à fait ça.
Et vous vous intéressez à la professionnalisation des community managers dans le contexte de la grande émulation autour des muséo-geeks. Alors là, il va falloir aider un peu nos auditeurs. Il y a eu beaucoup d'expressions, animation de réseaux sociaux, muséo-geeks. Commençons peut-être par muséo-geeks. Vous voulez dire que ce sont les geeks et non les conservateurs qui réfléchissent à l'avenir des musées ?
C'est pas tout à fait comme ça que ça se pose. Les muséo-geeks, c'est un hashtag qui a été utilisé par un certain nombre de professionnels de musées, d'étudiants, d'amateurs aussi, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. C'est un moment qui commence vers 2007-2008 autour d'un blog, celui de Diane Drubé, qui s'appelait Buzzéum et qui a créé un petit noyau de gens qui s'intéressaient à ces questions du numérique et des musées, de la culture en général. Et puis petit à petit, vers 2010, l'envie de faire des rencontres émerge véritablement, et à ce moment-là, ces personnes se regroupent derrière ce hashtag muséo-geek et décident de se rencontrer en vrai, comme on dit, lors d'un pique-nique, le pique-nique numérique, et puis après dans d'autres, enfin c'est, il y avait eu des rencontres individuelles, mais là c'est une des premières fois où ça se rencontre en vrai.
Alors si on regarde d'un petit peu plus près tous ces muséo-geeks, on peut aller sur le site muséo-geek.com et on découvre qu'il y a quatre communautés, dont Muséonum et Muséomix. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur toute cette galaxie un petit peu de communautés agissantes au service de la réinvention des institutions culturelles. Muséonum, qu'est-ce que c'est, Noémie Couillard?
Muséonum, c'est un wiki qui a été créé par Omer Pesquer, qui a toujours comme but d'être un centre de ressources, un wiki de ressources pour les professionnels des musées et aussi pour les étudiants, qui a été animé par un certain nombre de personnes, notamment encore une fois un certain nombre qui sont autour de cette table, et puis c'est accompagné de plusieurs pages Facebook, d'une page Twitter, etc., et aussi de rencontres régulière il y a quelques années en tout cas, sur un certain nombre de thématiques, qui permet encore une fois de structurer ce mouvement, de donner des ressources en ligne, etc. Et là pour le coup, c'est construit véritablement en dehors des institutions, c'est véritablement une initiative d'un passionné.
Autre initiative mentionnée par Muséo Geek, il s'agit de Muséo Mix. Alors on est toujours sur des jeux de mots autour de Muséo. Muséo Mix, vous me mentionniez dans vos échanges votre étude de Muséo Mix 2. Dites-nous tout.
Alors Muséo Mix, c'est une initiative qui commence en 2011 pour la première édition aux Arts Déco à Paris. Donc Muséo Mix, c'est une partie de ces Muséo Geek justement qui ont décidé de créer leur propre projet, de le proposer aux établissements, ce qui était quand même une démarche assez novatrice. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui a un petit peu évolué au cours du temps, mais on peut citer Erasme, qui est un Fab Lab de la région de Lyon. On peut citer aussi Diane Trubet, qui était là à l'époque autour de son blog Buseum, justement. Et puis d'autres, à titre plus individuel, Samuel Bosson, qui est aussi quelqu'un qui a été beaucoup suivi comme exemple de l'utilisation des réseaux sociaux numériques dans son musée. En tout cas, ces personnes et d'autres se sont rassemblées pour créer proposer ce Muséo Mix qui, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler quand ça a émergé. En fait, c'est une espèce de hackathon qui est transposé dans le cadre des musées. Le but est de créer des dispositifs numériques en 3 jours, donc au mois de novembre, autour du week-end du 11 novembre, avec un certain nombre de participants, et qui se passe dans un lieu. Au départ, c'était un seul lieu, et puis petit à petit, l'événement a pris de l'ampleur et se passe maintenant à l'international et dans plusieurs lieux en même temps, ce fameux week-end du 11 novembre, et on peut voir leurs travaux sur leur site Muséo Mix.
Noémie Couillard, vous avez par ailleurs cofondé Voix Publique, une agence de recherche et de conseil pour la culture et le patrimoine, et vous faites des enquêtes, si j'ai bien compris, auprès du public, aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif, et dans ce cadre, vous coordonnez actuellement une vaste enquête qui s'appelle « À l'écoute des visiteurs » pour le compte du ministère de la Culture. Quels sont les retours du public ou des publics vis-à-vis de tous ces nouveaux dispositifs de médiation ? On ne peut pas évidemment tout synthétiser, mais grosso modo, est-ce qu'il y a une demande forte du public vis-à-vis d'une transformation dont un musée fonctionne ?
Alors là, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas tous les chiffres et je ne travaille pas sur cette enquête tous les ans, donc j'ai pas l'évolution de ces pratiques. En tout cas, la question des médiations numériques est posée dans cette enquête, alors qu'est une enquête par questionnaire, évidemment pas seulement centrée sur les questions du numérique, donc on l'aborde assez ponctuellement. Clairement, cette question des médiations numériques est posée, avec la question de savoir s'il y en avait assez ou pas. Donc ça, je n'ai pas les résultats en tête. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on intègre la question de savoir voir si les visiteurs prennent des photographies pendant ou après l'exposition et les diffusent sur les réseaux sociaux numériques et racontent leur visite. Et ça, on voit clairement que c'est une pratique qui augmente au fur et à mesure des années.
C'est-à-dire qu'on rentre au musée et quand on va au musée, on y va armé de son smartphone.
Oui, clairement, c'est une pratique, en tout cas, qui prend de l'ampleur. C'est pas une pratique massive. En tout cas, elle n'est pas massive dans les enquêtes. On la voit pas massivement dans les enquêtes, mais on voit que c'est depuis quelques années. On voit en tout cas une progression qui augmente très fortement d'année en année.
L'un des enjeux sur lesquels on va réfléchir aujourd'hui, c'est évidemment celui de la médiation. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand on est un professionnel de la médiation, il faut forcément être un peu quelque part un geek ou plutôt un historien de l'art?
Je dirais que ça dépend de la structure qu'on intègre. En fait, on sait très bien que les établissements sont extrêmement différenciés en termes de moyens, de structures, etc. Dans certaines petites structures où les équipes sont 3 et ils doivent s'occuper de tout, ça peut être intéressant d'avoir effectivement cette sensibilité-là. Après, effectivement, dans une très grosse structure, on peut être un peu plus spécialisé, effectivement, peut-être un peu plus geek, comme vous dites. Après, ce qu'il faut jamais oublier, là, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, c'est que il faut pouvoir parler des œuvres. Et effectivement, il faut à un moment avoir aussi une connaissance un petit peu de ces collections, de ces fonds, pas forcément autant qu'un conservateur, mais il faut savoir aussi par quel biais les aborder, puisque la question question de la médiation, c'est de plus en plus la question d'éditorialisation et de projets éditoriaux, en tout cas, encore une fois, en ligne. Donc, il faut savoir, il faut avoir des connaissances, évidemment, un petit peu en patrimoine, en muséologie, un petit peu en histoire de l'art, en des sciences et techniques, etc.
Mais oui, la technologie n'a pas réponse à tout. Je vous propose, Noémie, de marquer une petite pause. On va pouvoir faire un tour des innovations et des nouvelles façons, précisément, de faire vivre les musées, leurs collections et d'interagir avec le public. Alors, je vous dis à tout de suite, après le flash. Atelier des médias, deuxième partie. On est ici réunis pour parler de la transformation des institutions culturelles à l'heure du numérique. Et nous avons entendu Noémie Couillard en première partie. Nous allons donc pouvoir aborder désormais la question des nouvelles formes de médiation avec Audrey Defretin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Audrey, vous êtes vous-même doctorante. Vos recherches portent, si je ne me trompe pas, sur les mutations de la médiation culturelle et des pratiques de la visite. Et plus particulièrement, votre thèse porte sur les impacts et les enjeux du numérique dans, alors là je cite, trois choses, la co-construction, la personnalisation et l'appropriation des contenus culturels. Ça va, je ne me trompe pas ?
C'est exactement ça.
Alors peut-être aidez-nous à comprendre un peu ce que ça veut dire, co-construction. Si on commence par la co-construction, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors co-construire, Noémie en a déjà parlé, et c'est vraiment quelque chose d'important quand on parle de numérique dans les musées. Aujourd'hui, on parle de participatif, on parle de co-construire, et ce sont des nouveaux enjeux pour la mutation de la médiation culturelle, mais aussi en général pour l'évolution des musées actuellement. Donc on co-construit entre professionnels, on co-construit également entre visiteurs, et on co-construit entre l'institution et les visiteurs.
Mais si on est concret, quand on co-construit sa visite, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous mentionniez l'exemple de l'histopathe de Chambord. Qu'est-ce que c'est que la co-construction quand on est armé d'un histopade, Audrey Defretin?
Alors là, c'est un petit peu différent. L'histopade est un outil, un dispositif de médiation numérique. Donc en fait, il consiste en une tablette sur laquelle vous avez un programme de réalité augmentée, donc qui permet d'augmenter le réel. C'est-à-dire qu'à travers l'appareil photo de la tablette, on peut voir une restitution en trois dimensions d'un endroit. Donc en général, c'est utilisé pour les châteaux qui sont dépourvus de leur mobilier, des tentures, etc., des peintures. Ça peut également aussi fonctionner pour l'archéologie. Donc là, c'est différent dans le sens où le visiteur a cet outil qui va lui permettre de comprendre différemment sa visite, d'appréhender différemment le lieu. En revanche, la co-construction, elle est plutôt après dans les usages qui suivent une expérience comme celle-là, c'est-à-dire que le visiteur ayant vécu cette expérience avec ce type de dispositif de médiation va pouvoir après, s'il le souhaite, échanger soit entre visiteurs par les réseaux sociaux, soit à la travers d'autres dispositifs ou entre le visiteur et l'institution.
C'est-à-dire que si je suis le château de Versailles, si le public s'est mis à instagrammer, comme on ne dit pas, des recoins du parc, il est important pour le musée de le savoir, voire peut-être même de le valoriser. C'est ça, Audrey Defretin ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le visiteur va commencer à décrire quelque chose, partager son expérience, il est intéressant que l'institution puisse récupérer cette expérience et pouvoir après l'amplifier, et puis aussi avoir une vraie relation, un vrai dialogue avec le visiteur. Et c'est là que les réseaux sociaux numériques sont importants dans la participation et la co-construction. C'est aussi ce dialogue et cette relation qui va complètement changer. Le numérique change la relation finalement entre le visiteur et l'institution.
Est-ce que vous avez un exemple en tête d'une institution qui a particulièrement bien réussi dans cette démarche dite de co-construction, Audrey Defretin ?
Alors, il y en a beaucoup. C'est vrai que vous citiez le château de Versailles. Je pense qu'ils ont fait énormément de choses sur les réseaux sociaux numériques et notamment à travers les jeux concours qu'ils ont pu mettre en place. Le dernier qui est assez connu, c'est Le Roi est mort. Voilà, donc ils ont mis en place toute cette programmation autour de la question de la mort du roi. Il y a une exposition qui était adossée aussi à cette expérimentation-là. Donc, c'était aussi le but de stimuler un petit peu les interactions entre les visiteurs, les internautes aussi, parce qu'il y a les visiteurs qui sont sur place et les visiteurs qui ne viennent pas forcément, ça c'est important de le dire. Et puis voilà, les objets, les collections, ce que l'exposition représente. Je vais aussi citer un autre exemple, c'est le musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge, qui a aussi également fait de nombreux dispositifs donc sur les réseaux sociaux numériques, notamment un jeu concours qui s'appelait Où est Saint-Louis. Donc c'était une vraie coopération entre le musée national du Moyen-Âge et la réunion des musées nationaux, puisque au centre des monuments nationaux, Et c'était une vraie coopération avec deux expositions qui avaient lieu, une au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, et une à la conciergerie sur Saint-Louis. Et celle du musée de Cluny était plutôt autour du voyage, autour du Moyen-Âge. Donc voilà, et ce jeu a permis de fédérer déjà des institutions, mais aussi de fédérer un réseau presque de visites entre deux lieux, deux établissements. C'était assez intéressant de faire cette relation vraiment entre les visiteurs et l'institution.
Autre aspect important à mentionner et qui est lié à votre travail, c'est celui de la personnalisation. Alors la personnalisation, c'est ce que vous m'écriviez, semble encore peu développée dans les musées français. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément la personnalisation, Audrey de Fretin ?
Alors personnaliser, c'est un mot qui est un petit peu complexe, c'est vrai, puisqu'il a différents aspects. En général, quand on parle de personnalisation, on entend tout de suite ce que l'on a sur Amazon, hein, c'est-à-dire le côté marketing, c'est ce qui vient en premier lieu à l'esprit. En revanche, personnaliser a beaucoup plus d'ampleur, et surtout au niveau des musées, on peut avoir des visites donc qui sont à la carte, on peut dire ça comme ça. Donc le visiteur va souhaiter passer par exemple une heure, voir tel type de thématique dans le musée, quelque chose qui s'adapte à sa langue, quelque chose qui s'adapte à son handicap, ça peut être plein de choses. Et effectivement, l'institution, s'il prévoit des contenus personnalisés, peut être en capacité de lui proposer un parcours, donc un peu à la carte. Ça, c'est le type de personnalisation qu'on peut trouver. Mais j'entends aussi par personnalisation le fait d'avoir le choix dans les dispositifs de médiation et tout simplement, je suis aficionados du numérique et justement, j'aime faire ma visite avec des outils numériques. Eh bien, le musée me propose des outils numériques pour faire ma visite comme cela. En revanche, j'aime les outils classiques de médiation. J'ai envie de suivre une visite guidée. Je suis en tout cas ma visite telle que je le souhaite. Et ça, c'est aussi personnalisé, c'est-à-dire offrir un panel de dispositifs de médiation qui sont aussi représentatifs de la diversité des publics.
Oui, dans la personnalisation, en un certain sens, c'est ne pas oublier le bon vieux guide.
On n'oublie jamais le bon vieux guide qui est de toute manière à la base de la médiation. Et souvent, quand on parle de médiation numérique, on a toujours tendance à séparer médiation de médiation numérique, ce qui est assez dommageable puisque la médiation numérique fait partie de la médiation dans globalité. Et c'est pour ça que c'est important de voir les volets de types de dispositifs qui sont à disposition des visiteurs. Et c'est tout ça qui fait la richesse aujourd'hui de l'évolution de la médiation.
Troisième aspect, donc celui de l'appropriation des contenus culturels. Explication de texte.
Alors s'approprier, effectivement, c'est quand même quelque chose de base quand on veut faire une médiation réussie. Ou en tout cas, on imagine que quand un visiteur va rentrer dans une institution, on voudrait lui transmettre quelque chose, puisque la médiation aussi, c'est un acte de transmission, mais pas comme à l'école, hein, on est dans une autre forme de transmission. Mais pour pouvoir transmettre, il faut aussi que le visiteur soit en capacité de s'approprier. Et c'est là aussi que la personnalisation rejoint cette connexion donc avec l'appropriation, puisque pour pouvoir s'approprier, il faut aussi qu'on ait le même dialogue que le visiteur. Donc, on appelle souvent l'univers socio-cognitif, c'est-à-dire essayer d'être le plus possible proche de la manière dont le visiteur va pouvoir appréhender les œuvres, les collections, et aussi par rapport à son monde à lui, son monde sensible. Donc, c'est là que l'appropriation va jouer aussi un rôle important dans la médiation, et que les outils numériques peuvent soutenir cette appropriation pour permettre d'avoir, on va dire, une médiation réussie, puis une expérience pour le visiteur qui soit pleine.
Noémie Couillard, tout à l'heure, nous disait que aujourd'hui, grosso modo, le visiteur est souvent armé d'un mobile, et pour les musées, on sait qu'une question qui se pose, c'est faut-il par exemple développer des applications mobiles pour accompagner ou proposer en tout cas aux visiteurs d'avoir cette possibilité d'accompagnement. Pourtant, il y a un faible taux d'utilisation manifestement. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que ça veut dire que le visiteur vient juste éventuellement prendre des photos mais ne souhaite pas plus que ça avoir une application dédiée, Audrey Desfretin?
Alors, encore un coup, ça dépend des usages. Chaque personne a des usages qui vont être différents, et on va dire que des visiteurs vont systématiquement télécharger l'appli mobile qui est proposée par le musée avant d'aller voir l'exposition. Donc ça, c'est un usage qui existe. Après, tout le monde ne le fait pas forcément. Des personnes peuvent aussi arriver sur place, découvrir qu'il y a une appli et pouvoir la télécharger. D'autres vont vouloir visiter uniquement en prenant des photos, en interagissant sur les réseaux sociaux. Encore un coup, tout dépend de la manière dont on visite. Le taux de pénétration après des applis mobiles, moi je les connais pas, je pourrais pas vous donner de chiffres.
Oui, pas dans le détail. Hein.
Voilà, pas dans le détail. En revanche, je pense que c'est quand même utile que les institutions culturelles continuent à développer ce type de dispositif d'aide à la visite, puisque ça correspond aussi à un usage et à une volonté pour certains visiteurs. Ils veulent le visiter avec une appli numérique, ce qui va pas remplacer, mais en tout cas un autre usage de l'audio guide. C'est-à-dire des gens vont vouloir visiter avec l'audio guide classique, d'autres vont vouloir visiter avec leur smartphone. Et tout l'intérêt de l'évolution des applications mobiles, c'était aussi le fait que l'on utilise vraiment le smartphone du visiteur, qui est son smartphone, son outil. Donc il y a moins de problèmes d'usage aussi liés à l'utilisation de son propre appareil.
Et je rappelle aux auditeurs que nous sommes ici pour parler de la transformation donc des institutions culturelles à l'heure du numérique. Et il y a toujours cette question donc du smartphone qui peut être aussi utilisé pour prendre des photos. Une question toute simple, quid du cadre juridique. Est-ce que moi, si je vais devant un Caravage ou la Victoire de Samothrace, est-ce que je peux prendre une photo comme ça, Audrey Defretin?
Alors là, je serais un peu démunie pour vous répondre vraiment dans le cadre juridique. C'est une question qui se pose depuis longtemps. Peut-être que mes collègues pourront répondre après. Ça a été problématique à plusieurs reprises. C'est vrai que les choses évoluent, notamment quand on publie des photos une fois qu'on les a prises, parce qu'on peut très bien prendre des photos d'une œuvre, les garder dans son univers privé, mais dès lors que l'on souhaite les partager, c'est là que le cadre juridique entre en vigueur et ça pose déjà plus de problèmes.
Et la tentation est très très forte quand on est sur son téléphone de le partager via les réseaux sociaux. Il y a un cas d'école que j'aime bien et je suis moi-même plutôt un grand lecteur devant l'éternel. Alors forcément, j'ai eu envie d'évoquer le cas de la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Claire Séguré et Sophie Bertrand. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors Claire Séguré, commençons par vous si vous voulez bien. Vous avez rejoint la BNF après avoir piloté la communication et les projets numériques du musée de Cluny dont on parlait tout à l'heure. Alors il y a différentes façons de faire vivre des collections, de faire vivre aussi l'institution elle-même. Je crois d'ailleurs savoir qu'à la BNF, il y a eu courant novembre un hackathon. En quoi il consistait ce hackathon, donc ce marathon créatif pour le dire rapidement?
Alors il s'agissait de 24 heures offertes à des amoureux de la donnée, des amoureux de la BNF, à qui on a ouvert les portes de la bibliothèque donc pendant toute une journée et toute une nuit, pour qu'ils puissent créer à partir de nos données, et Dieu sait qu'on en a, des applications et des nouveaux services. La plupart ont tourné d'ailleurs autour de Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, ce qui a permis d'enrichir l'offre de services autour de cette bibliothèque et de ce fonds extraordinaire, parce que c'est plusieurs millions de documents et donc de données, de métadonnées qui leur sont associées.
Alors justement, je me suis amusé, je suis allé sur le site de la BNF pour aller voir un petit peu les chiffres et ça donne évidemment le tournis. 14 millions de livres et d'imprimés, 250 000 volumes de manuscrits, 360 000 collections de périodiques, environ 12 millions d'affiches, enfin je pourrais continuer comme ça. Et je ne parle même pas des questions multimédia et d'archivage du web. Comment fait-on aujourd'hui, grosso modo, pour plateformiser une telle institution? Je vous pose la question comme ça parce que elle se pose pour les médias, on en parle souvent dans l'atelier ici. Plateformiser, c'est-à-dire projeter sur tous ces réseaux une telle institution qui a des collections finalement phénoménales.
C'est effectivement un challenge et l'écueil, c'est de vouloir faire le grand tout, c'est-à-dire d'arriver à tout mettre sur un pied d'égalité et présenter sous une seule enveloppe, qu'elle soit graphique ou même de service en ligne, des choses qui sont extrêmement diverses, des expertises qui sont extrêmement variées. Donc l'objectif, en tout cas le mien, puisque moi je suis en charge notamment de la refonte du site institutionnel de la BNF, c'est de créer vraiment un écosystème qui soit cohérent pour l'utilisateur, un peu indolore aussi parce qu'aujourd'hui il passe. Je compare ça souvent au voyage d'Alice au Pays des Merveilles. Il ouvre une porte, il tombe dans un trou, il arrive dans un catalogue, on le rebalance vers Gallica. Tout ça, ça peut effectivement donner le tournis quand on connaît en plus le volume de documents qu'on conserve. Donc nous, l'objectif, c'est de créer un voyage qui soit un peu moins douloureux, d'articuler mieux les différentes plateformes que la BNF peut proposer. C'est des catalogues, c'est Gallica, c'est un site institutionnel et ce sont des réseaux sociaux. Notre objectif, c'est aussi de rendre plus visible et plus lisible les collections. Parce que vous parliez effectivement d'imprimer, mais la BNF sont aussi des objets en trois dimensions. Ça va des costumes de théâtre jusqu'à des monnaies antiques. On couvre tous les domaines finalement de l'histoire de l'art et du patrimoine. Ce sont aussi des lieux, puisqu'il n'y a pas que la BNF François Mitterrand, il y a aussi des sites historiques, la bibliothèque musée de l'Opéra, l'Arsenal, Richelieu qui réouvre là dans 15 jours. Donc il faut donner à voir et à comprendre tous ces lieux, faire comprendre aussi à nos usagers qu'ils sont les bienvenus, comment on va pouvoir répondre à leurs besoins, comment les orienter, comment guider ceux qui savent déjà et qui ont besoin d'aller vite, comment ne pas perdre en route ceux qui pourraient s'égarer et qui vont être assommés par cette masse. C'est là tout le challenge de nos outils numériques et de nos plateformes.
Donc il y a une dimension un peu de service sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de le dire. Et puis pour beaucoup de musées, et même des petits musées, il y a des choses très intéressantes qui sont tentées. D'ailleurs, en un certain sens, tout le monde peut réagir si vous le souhaitez ici. Des initiatives que je trouve intéressantes, c'est par exemple quand on essaie de redonner vie à un personnage en exhumant par exemple des images, des photos, des textes et en restituant en fait quelque part une traversée existentielle sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est effectivement un parti pris qui a souvent été abordé par les institutions culturelles, qui permet de rendre les choses plus vivantes. Et c'est plus l'expert qui parle, mais c'est le personnage historique ou l'artiste qui va s'adresser directement au public. Et on a tous envie de savoir ce qu'il y avait dans la tête de Caravage ou d'un poilu de la Première Guerre mondiale, par exemple.
Autre aspect lié au numérique, c'est donc la numérisation, évidemment, des collections, qui est d'abord un enjeu, évidemment, de conservation à part entière. Mais c'est aussi une autre possibilité, ensuite, pour exposer, partager, mettre à disposition. D'ailleurs, un des projets monumentaux, en un certain sens, de la BNF, c'est évidemment Gallica. Donc, rebonjour Sophie Bertrand.
Rebonjour.
Dès votre arrivée à la BNF en 2011, vous avez été confrontée à la numérisation patrimoniale avec, en outre, je crois, une sorte de dimension partenariale puisqu'il s'agit de travailler avec tous ceux qui peut-être peuvent enrichir la façon dont Gallica fonctionne. Pour mémoire, Gallica, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Gallica, c'est quoi ou Galliquois, comme je dis souvent. Donc, c'est la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'institution a numérisé ses collections. Donc, Claire le disait bien, hein, la diversité aussi de ses collections. Donc, essentiellement de l'imprimé, bien sûr, mais on a de l'iconographie, des objets, même quelques globes en 3D qui s'y baladent. Et on a créé une interface avec des fonctionnalités pour...
Donc, sur la toile ?
Sur la toile, pour permettre à des usagers de pouvoir consulter sur le web ce type de document. Donc en fait, une bibliothèque numérique, c'est quoi ? C'est des contenus. Donc c'est 4 millions de documents qui ont été numérisés, des fonctionnalités, donc par exemple le moteur de recherche, des zooms pour voir des détails par exemple dans des images ou des affiches, et évidemment des usagers, et on a la prétention de leur appliquer un néologisme, les Gallicanautes.
D'accord. D'ailleurs, vous avez des opérations qui permettent de projeter justement ces collections, ces textes, ces manuscrits sur Internet. Je pense par exemple à l'opération qui s'appelle CM d'un jour, donc Community Manager d'un jour, donc on va le dire en français. Tiens, comment on va le traduire, Sophie Bertrand ? Community Manager.
Merci, pourquoi ça tombe sur moi, Claire ?
Animateur de communauté, voilà. Mais ça fait un peu Club Med.
Voilà, donc animateur ou géo, grand organisateur d'un jour avec le Huffington Post. En quoi ça consiste précisément ? Tiens, Claire.
Ça consiste à être invité par le HuffPost, donc un pure player, c'est quand même pas rien. Pure player qui utilisait déjà, si je me trompe pas, les contenus de Gallica pour illustrer l'actu, et donc à prendre les rênes des comptes réseaux sociaux du HuffPost pour porter un regard décalé mais toujours pertinent sur l'actualité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pendant le hackathon a été développée une petite appli qui s'appelle Que dirait Diderot, qui va chercher dans les contenus de Gallica, et notamment dans les contenus textes, des citations qui pourraient faire écho à l'actualité. Donc je vous conseille d'aller suivre le compte Twitter de Que dirait Diderot. Et ça, c'est totalement dans la lignée de ce regard et de ce recul que permet le patrimoine, et notamment le patrimoine littéraire, sur l'actualité.
D'ailleurs, c'est assez bluffant quand on va sur le compte Twitter de Gallica. On se rend compte qu'il y a énormément d'interactions avec le public. C'est-à-dire que les gens, contrairement à une idée reçue, ne sont pas dans le temps réel et la tyrannie du live. Ils sont très très heureux de se trouver en fait en présence le matin d'une estampe ou d'un texte très ancien. Deuxième exemple peut-être sur des façons de faire vivre Gallica, une opération qui s'appelle, alors je suis désolé, c'est encore en anglais, mais c'est pas moi qui l'ai nommé, Do It Yourself Gallica, qui est proposée à l'occasion des journées portes ouvertes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus, Sophie Bertrand ?
Donc faites-le vous-même, ce fameux Do It Yourself. Donc dans Gallica, il y a non seulement des textes littéraires, des presses et revues, mais il y a aussi pas mal de tutoriels, de modèles, alors soit pour tricoter sa petite brassière, soit pour faire ses meringues comme son arrière-grand-mère, etc., etc. Et l'idée, ça avait été, à partir d'images d'Épinal, de maquettes pour faire des objets en papier, et bien de réincarner ces Gallicanautes que l'on a soit par Twitter, soit par Facebook, donc de les inviter au cœur de l'institution, donc à François Mitterrand dans le cadre des portes ouvertes, et de se dire, bah, à partir de ces matériaux de Gallica, on va les fabriquer ensemble pendant une demi-journée. Donc ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est que on avait déjà une diversité d'usagers. On avait certes ce qu'on appelle des Gallicanautes émérites, donc ils savaient très bien de quoi on parlait et qui pouvaient parler très bien des images d'Épinal, etc., des maquettes, voire des difficultés aussi de faire ces maquettes, parce qu'ils s'étaient entraînés avant les journées portes ouvertes. Mais on glanait aussi des personnes qui ne connaissaient pas Gallica, même jusqu'au terme, qui ne savaient pas forcément ce que c'était qu'une bibliothèque numérique, et qui étaient impressionnés par l'institution ou tout simplement par ce que peut représenter le patrimoine. S'approprier le patrimoine, c'est aussi accepter de s'amuser avec et accepter en fait aussi un éventail de jouissances. Donc qui peut être dans la curiosité, la découverte, l'anecdotique, mais qui peut être tout simplement aussi dans réincarner, rematérialiser ce qui est à nous, ce bien commun qui est en fait ce patrimoine numérisé.
À vous entendre toutes, on a vraiment l'impression que le public a fait une intrusion comme jamais quelque part dans le fonctionnement des musées. Est-ce que vous confirmez que finalement le public quelque part a repris une partie du pouvoir sur les collections à l'intérieur des musées? Qui a envie de réagir, Claire?
Oui, il a repris le pouvoir sur les collections et sur la notion de service public. J'en parle parce que la BNF c'est aussi des services, on est au service de projets de vie des gens. C'est une thèse, c'est réviser son bac, c'est changer de job ou juste se mettre au chaud pour réfléchir au calme parce qu'on habite à 8 dans un appartement de 20 mètres carrés. Donc il y a un enjeu quand même assez fort de ce point de vue-là. Ils nous demandent, ils nous questionnent, ils nous remettent en question. Et ça, c'est très intéressant. C'est une démarche de service et de service après-vente qui est palpitante.
Et alors justement, j'imagine que de l'autre côté, dans la conception des expositions ou dans la valorisation des collections, aujourd'hui, on ne peut pas ou on ne peut plus, en tout cas, ne pas associer le public ou réfléchir à la façon dont on va projeter au dehors cette exposition sur les réseaux. Claire Séguré.
Oui, c'est effectivement un paramètre qu'il faut prendre en compte. Alors c'est souvent délicat pour les expositions parce qu'on est dans des timings très serrés. Souvent une exposition c'est une course contre la montre. Le community manager il est parfois encore vu comme celui qui va faire ralentir les choses ou qui empête un peu tout le monde. Il y a souvent des questions de droit qui se posent. En tout cas pour nous à la BNF c'est parfois le cas. Donc on a encore beaucoup de routes à faire. Mais c'est vrai qu'on essaye d'aller au-delà de juste il y a une expo, venez la voir, c'est sympa. On est dans un paysage concurrentiel, faut être réaliste. C'est pas juste en disant qu'on a une expo bien que le public va venir, donc il faut qu'il puisse comprendre ce qu'il a à trouver là, et on aimerait notamment pouvoir arriver à faire plus de transferts, en tout cas à la BNF, entre ce public de lecteurs et d'usagers de la bibliothèque et nos expositions, ce qui pour l'instant est encore une gageure.
En plus, comme on est une bibliothèque, on n'est pas forcément attendu sur les expositions. Donc il y a aussi une ambiguïté identitaire autour de ça.
Je vous propose de prolonger cette conversation avec ces nouveaux objets qui peuvent et doivent finir par entrer aussi au musée, et je pense notamment aux jeux vidéo. Bonjour Marion Coville.
Bonjour.
Alors permettez-moi de vous présenter rapidement. Vous êtes sociologue, présidente de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, et vous avez soutenu une thèse sur l'adaptation des jeux vidéo au musée. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Je me trompe pas?
Tout va bien.
Votre thèse portait moins sur les techniques de conservation, mais plus sur les questions de reconnaissance et de légitimation culturelle des jeux vidéo par les institutions publiques et culturelles. Est-ce que c'est encore et toujours un combat pour être connu rue de Valois aujourd'hui pour le jeu vidéo ?
C'est toujours un combat d'être reconnu vraiment comme un objet culturel. Ça a beaucoup évolué depuis le début des années 2000, puisqu'on a eu notamment des dispositifs d'aide à la création des jeux vidéo qui ont été notamment mis en place par le ministère de la Culture et par le CNC. Mais on voit notamment que ces dispositifs, ils ont aussi permis aux jeux vidéo d'être reconnus comme un objet culturel, puisque pour être soutenu par le ministère de la Culture, il fallait être connu comme un objet culturel. Donc il y a eu tout un dispositif de remise d'insignes à des créateurs de jeux vidéo, de présence du ministre de la Culture, à l'époque notamment Frédéric Mitterrand, dans des vernissages d'expositions de jeux vidéo. Mais on voit que ça continue quand même à poser problème, et dans les institutions culturelles, où le jeu vidéo n'est pas forcément bien vu, et dans les représentations aussi de la population française. Je pense notamment à une récente enquête de Jean-Michel Guy, il me semble, sur les représentations de la culture par la population française, où on découvre que pour plus de 60% de la population, le jeu vidéo ne fait en aucun cas partie de la culture.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur RFI et que on aborde en fait la question de la transformation des institutions culturelles à l'heure du numérique, et précisément on va prendre un peu de recul international. Vous m'avez fait part, Marion Coville, de deux approches en un certain sens pionnières pour tout ce qui est du jeu vidéo. Vous mentionniez d'abord le MoMA, qui a été, si je me trompe pas, le premier à intégrer des jeux vidéo à ses collections. Le MoMA, pour mémoire, c'est...
Le Museum of Modern Art de New York.
Et alors, qu'est-ce que le public pouvait découvrir, justement, sur place?
Disons que avant de pouvoir le découvrir sur place, il y a déjà eu toute une politique d'acquisition. Je crois que ça a commencé en 2013, où le MoMA a acheté des jeux vidéo pour les intégrer à ses collections. Alors là, c'est intéressant puisque ça ne fait pas partie des collections d'art ou d'art numérique, ça fait partie des collections de design du MoMA. Ensuite, en fait, les visiteuses et les visiteurs pouvaient découvrir différents jeux vidéo, mais là, la politique du MoMA a posé beaucoup de questions très intéressantes. C'est que au lieu de ne collectionner que des jeux vidéo anciens, où on présenterait par exemple un support matériel assez ancien avec un jeu vidéo dessus, le MoMA a aussi collectionné des jeux vidéo actuels, qui sont encore aujourd'hui mis à jour par les conceptrices et par les concepteurs.
Donc accessibles en ligne.
Accessibles en ligne, mais dont il faut enregistrer toutes les mises à jour comme de nouvelles versions du jeu vidéo qui a été collectionné pour pouvoir en garder une trace. Donc on a vraiment toute une question de comment est-ce qu'on conserve d'un côté les interactions entre ces personnes et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on en restitue ? Puisque pour l'instant, la politique de sauvegarde ne permet que de conserver ce qui a été créé par les joueuses et par les joueurs, mais en tant que chercheuse ou en tant que chercheur, si on va se connecter à ce monde tel qu'il a été conservé par l'institution, il n'y a aucune trace des personnes qui ont pu y participer et aucune trace des interactions.
À l'atelier, nous tweeterons un lien vers un article que vous mentionniez dans les échanges qu'on a eus et qui permettra de revenir un peu sur cette expérience. Audrey Defretin, merci. Je rappelle que vous avez rédigé une thèse sur la médiation et notamment sur les supports numériques. Merci.
Merci.
Noémie Couillard, je rappelle vous que vous avez rédigé une thèse sur les nouveaux métiers du musée et notamment le community management, donc l'animation des réseaux sociaux. Merci.
Merci à vous.
Marion Coville, vous, c'est sur les jeux vidéo au musée que vous planchez. Merci d'être venue.
Merci.
Et pour la Bibliothèque nationale de France, je remercie Claire Séguré qui est en charge notamment, alors je cite, de la coordination internet et des réseaux sociaux. Merci.
C'est tout à fait ça, merci.
Sophie Bertrand, vous êtes en charge donc de Gallica, qu'on retrouve très facilement d'ailleurs aussi sur Twitter, sur Instagram et compagnie. Merci Sophie Bertrand.
Merci beaucoup.
Vous pourrez retrouver toutes ces références sur atelier.rfi.fr. J'en profite pour dire aux auditeurs que la semaine prochaine, nous allons vous proposer deux rediffusions puisque nous allons nous éclipser pour les fêtes de fin d'année, mais elles seront enrichies de deux entretiens exclusifs en début d'émission. Et nous, toute l'équipe va pouvoir reprendre son souffle au terme de cette heureuse et folle année avec vous. Nous comptons bien revenir avec plein d'idées, d'envie et de reportages en bandoulière. Et je dois dire d'ailleurs que nous préparons d'ores et déjà pas mal de beaux projets sonores et numériques. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Julien Lebot. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute. Sunshine.